J'étais ici depuis 8h30 ou même 9h30 ce matin. Je pense que vous avez certainement apprécié le bon temps qu'on a eu. Et vous savez, ça s'est organisé un peu à la dernière minute. On a su un peu à la dernière minute que, exceptionnellement, plusieurs des membres du groupe Ecclesia étaient disponibles. Donc, ça, on a chamboulé un peu l'horaire, mais je pense que vraiment, ça valait la peine. Donc, on veut vraiment être reconnaissant au Seigneur pour cela. Et bien entendu, on parle toujours de la fin de semaine de Pâques, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, lorsque j'approche cette période-là, puis j'ai tout le temps, pas un combat, mais un conflit un peu dans ma tête, en me disant, bien, Pâques, ce n'est pas vraiment la Pâque juive comme on connaît dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose d'autre qui a été mis un peu en place, ça ne s'écrit même pas de la même manière. Sauf qu'il y a quelque chose, c'est que c'est une période un peu particulière où, depuis l'origine, c'est un temps où, normalement, on devrait se concentrer vraiment sur la résurrection. Vous savez, quand j'étais jeune, et même très jeune, quand arrivait le Vendredi Saint, je me souviens, on sortait de l'école primaire, puis quand il arrivait 3 heures, savez-vous ce que je faisais? Je regardais la température pour voir si ça ne s'obscurcirait pas. Et quand on arrivait à l'église, pour aller à la messe, même dans ces jours-là, les statues étaient couvertes. Mais quand arrivait le dimanche, là, c'était ouvert, et là, on nous faisait la lecture de la Passion du Christ. Et ça, c'est intéressant. Bien, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu imaginais tout ça dans ta tête, puis tu disais, wow, hey, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, depuis ce temps-là, on a souligné même ce matin, et on a vu même des extraits, Hollywood a fait un paquet de films là-dessus. Mais avez-vous remarqué une chose? Dans tous ces films-là, pratiquement, combien toute l'attention est portée sur la croix et plus spécifiquement sur les souffrances de Jésus. Beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Et après arrive une petite période où tout à coup, oups, il n'est plus là, il est ressuscité. Puis après ça, le film normalement se termine, puis ça va assez vite. Donc, pas le même temps de consacrer. Vous savez, dans nos esprits à nous, humains, c'est sûr que la mort, c'est quelque chose sur laquelle on est familier, on la côtoie. Plus on vieillit, on dirait, plus on est sensible à ceux qui meurent autour de nous. Sans regarder nécessairement les annonces classées, mais on en est plus sensible. Donc, la mort, de savoir que Jésus est mort il y a 2000 ans, ça ne cause pas de problème à personne. Mais quand on arrive avec le concept, avec l'idée de la résurrection, ça, là, ça nous fait pas le même, on n'a pas le même impact à cause du vécu qu'on a. Et vous savez, vous pourriez aller vous asseoir dans un cimetière, parce que vous savez c'est quoi la mort, puis regarder, assis sur une chaise jusqu'à temps qu'il y ait une résurrection, vous allez attendre longtemps. Ça ne se fait pas. Mais la mort, elle, c'est quelque chose qu'on est conscient et avec lequel on vit vraiment tous les jours. Ah, Yannick, j'ai un petit peu peint avec mon petit bidule. Je ne sais pas s'il y a une petite... petite erreur où je tire, je go. Merci. Donc, ce matin, je me suis dit, ouais, puis tout à coup que Christ ne serait pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, ça devrait faire une différence? Et c'est pour ça que quand on regarde dans la parole, on voit très bien que, peux-tu me l'avancer encore, Yannick, ou je vais faire de même? Merci. Si je vois que ça ne marche pas, je ferai des petits claquages de main. L'importance de la résurrection. Vous savez, lorsqu'on parle de la résurrection, pour le christianisme, et même, je dirais, beaucoup plus loin pour d'autres religions aussi, c'est quelque chose qui est très important. C'est une doctrine même fondamentale. Et dans notre cas, pour les chrétiens, c'est une doctrine qui est au même, je dirais, au cœur de l'Évangile. Tellement primordiale. Il y a un philosophe anglais qui s'appelle John Locke, qui a dit ceci. Il a dit... La résurrection de notre Sauveur est véritablement d'une importance capitale pour le christianisme, si capitale qu'il dépend entièrement du fait qu'il soit ou non le Messie. Parce que le Messie annoncé, celui qui a été annoncé depuis des temps et des temps, des milliers d'années, le Messie qui est annoncé, bien, c'est annoncé aussi qu'il devait ressusciter. Donc, c'est pour ça que dans cette citation-là, c'est tellement important et que c'est au cœur de l'Évangile. Et ce matin, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est un texte qui devrait nous convaincre de l'importance de la résurrection et voir ensemble aussi, mais qu'est-ce que ça fait sur la résurrection dans nos vies? Ou qu'est-ce que ça devrait faire? Et pour ce faire, je vous invite à tourner tout d'abord dans l'Épître aux Corinthiens, s'il vous plaît, dans le premier Épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Et pendant que vous tournez, vous savez, lorsque Paul a écrit cet épître-là, il a écrit pour répondre à des questions, à des interrogations, à des inquiétudes que des gens avaient. Et là, Paul, lorsqu'il a écrit aux Corinthiens, il a répondu à un paquet de questions comme ça. Et parmi ces questions-là, bien entendu, il y en avait une qui concernait l'aspect de la résurrection. Et on va lire à partir du verset 12, chapitre 15 de 1 Corinthiens, verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, ben Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, ben votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Voyez-vous, dans le texte qu'on vient de lire ensemble, le thème de la résurrection est d'une importance capitale. Et l'apôtre va prendre un raisonnement quasiment à l'inverse de ce qu'on pourrait penser pour nous convaincre combien ce thème-là est important. Et comprenez bien que lorsque je parle de la résurrection ici, bien entendu, là, je parle de la résurrection corporelle, une résurrection physique, pas quelque chose qui se promène dans les airs après la mort, là, pas ça, là. Parce qu'il y a bien des gens qui croient, il y a bien des religions qui croient qu'il y a quelque chose après la mort. Mais de ce dont on parle ici, c'est de la résurrection des corps. Et c'est un peu surprenant de dire comment ça se fait que cette question-là a pu être posée à Paul. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont amené ça, ce questionnement-là? Bien, quand on regarde sur Google Maps, en 2016, j'ai juste fait un petit test pour voir, de Corinthe à Athènes. Bien, Corinthe à Athènes, c'est 80 km, c'est une heure en voiture. Bon, en 2016, c'est sûr que si on recule quelques milliers d'années en arrière, ça ne se faisait pas en voiture. Mais voyez-vous, c'était quand même une distance qui n'était pas trop pire. Et quand Paul avait été à Athènes, Paul avait eu l'occasion de discourir puis de discuter avec des philosophes, avec des gens bien religieux, d'autres qui croyaient toutes sortes d'affaires. Et lorsque Paul a commencé à parler de la résurrection, oh, là, ça l'a semé toute une histoire, toutes des confusions et tout ça. Sauf que ces gens-là qui étaient à Athènes, toutes leurs croyances, bien entendu, peut-être que ça peut avoir une influence sur l'Église de Corinthe. Parce qu'il arrive qu'au travers de ce que les gens croient fermement, bien, ça peut peut-être influencer les gens qui sont ailleurs, notamment dans ce cas-ci ici, l'Église de Corinthe. Puis d'ailleurs, souvenez-vous que Jésus, d'ailleurs, lui-même, à un moment donné, a eu l'occasion de rencontrer des chefs religieux. Puis parmi ces chefs-là, il y avait des gens qui étaient des Sadducéens, des gens qui, bien religieux, mais ça, la résurrection, ça, il était capable de remettre ça en question. Il ne croyait pas à la résurrection du tout. Donc, le point de départ, c'est que peut-être l'Église de Corinthe a été un peu influencée par tout ce qui se disait, toutes les belles philosophies que le monde pouvait avoir. Mais l'apôtre Paul, ici, comme point de départ, va dire au verset 13, à quelque part, que ce thème-là, de la résurrection, de cette doctrine-là, est tellement important que le point de départ de son argumentation va aller avec un « si ». Mais dans le texte qu'on a lu, vous remarquerez qu'à 7 reprises, Paul va dire « si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'a pas ». Voyez-vous, il va frapper sur le clou à plusieurs reprises pour dire « c'est terrible ce que ça fait ». Parce que si il n'y a pas de résurrection des morts, comme il dit au verset 13, bien, Christ n'est pas ressuscité. C'est clair, ça va de soi. S'il n'y a pas de résurrection des morts, bien, Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors ça va amener quoi? Ça va amener des conséquences qui sont désastreuses. Ça va amener des conséquences dramatiques. Et ça va amener des conséquences qui, je dirais, vont avoir un effet domino. Vous connaissez l'effet domino? L'effet domino, je touche à une affaire bien importante, dans ce cas-ci, un domino. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire tomber toutes les autres que par la suite. Paul va dire à quelque part, si vous touchez à la résurrection, l'impact que ça va avoir, c'est catastrophique. Et la première conséquence que ça va avoir, il dit au verset 14a, c'est que notre prédication est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. J'ai regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire, vaine? Ça veut dire sans valeur, futile, insignifiante, sans espoir et sans effet. Si Christ n'est pas ressuscité, la prédication de Paul à l'égard de la résurrection, c'est quelque chose d'insignifiant. Donc, tout ce que Paul a enseigné est vain et futile. Mais Paul va dire notre prédication, parce que les autres apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché aussi sur la résurrection. Donc, les apôtres aussi, leur prédication était vaine et futile. Jésus, lorsqu'il a parlé de la résurrection, ça veut dire que ses enseignements, Jésus, là-dessus, étaient inutiles. Les écrivains dans l'Ancien Testament qui ont parlé de la résurrection sur ce sujet-là, bien, eux autres aussi. Et si on vient plus près de nous, tous les grands prédicateurs qu'on a pu avoir, des hommes comme Calvin, Luther, Spurgeon, des gens qui ont consacré leur vie à prêcher que Christ était ressuscité, bien, toutes ces personnes-là se sont plantées. Leur prédication, elle était vaine. Vous savez, si le tombeau de Jésus n'est pas vide, vous perdez votre temps à écouter des prédications. Pourriez-vous en aller? Faites-le pas. Restez. On n'a pas fini. Attendez au moins jusqu'à 11h30, OK? Mais c'est ça. Ce que Paul dit, c'est que notre prédication, elle est vaine, elle est inutile, elle est sans espoir et sans effet. Donc, on a prêché pour rien. Mais il va aller encore même un peu plus loin. Il va dire au verset 15, « Nous sommes de faux témoins. » Des faux témoins. Vous savez, un témoin oculaire, c'est quelque chose qui peut rapporter devant une instance judiciaire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et moi, je n'aurai pas le temps ce matin, mais une des plus terribles expériences que j'ai vécues au niveau du travail, c'est lorsqu'un jour, on avait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé dans le domaine de la protection de la faune, et j'ai eu à passer à cours à différentes reprises pour des actes de braconnage. Et un jour, on avait pogné quelqu'un, là, quelques personnes ensemble, on était tellement contents, tout avec des preuves circonstancielles. On avait tout monté le dossier. On s'était assuré d'aller fermer les portes pour que lorsqu'on va arriver en cours, on ne se fasse pas jouer de tour. On était contents, puis on s'est dit, yes, lui, il va payer. Et on est arrivé en cours avec notre avocat, et même avant que ça passe en cours, on a eu une rencontre intime avec les procureurs, où là, on était prêts, les gens étaient même prêts à plaider coupable si on laissait tomber l'individu principal. On a dit, wow, pas question, c'est lui qui pille. On ne commencera pas à l'empêcher. On a dit non, on y va, c'est tout ou pas tout. C'est présenté en cours, on a eu des témoignages, on a témoigné, on a fait des démonstrations par rapport aux traces de pneus, le sang, aïe, c'était terrible, on était tellement contents. Et là, tout à coup, il y a un petit monsieur qui s'est présenté à la barre des témoins, qui est venu affirmer sous serment devant le juge qu'à telle heure, à tel moment, dans tel dépanneur, il avait vu notre contrevenant principal. Le juge écoutait ça en disant, il nous a dit à la fin, « Je n'ai pas le choix de vous déclarer non coupable. » Ça ne veut pas dire que vous êtes innocent, mais je n'ai pas le choix de vous déclarer non coupable parce qu'il y a quelqu'un qui est venu témoigner comme ça. Un faux témoin. Sur la photo qui est là, vous voyez quelqu'un qui est prêt à jurer, à dire tout devant le ciel, devant le juge, Et en arrière, on faisait ça quand on était jeune. Vous déjà faites ça? Comptez une menterie, mais c'est pas grave, regarde, t'en mets en arrière, pas grave. Ben, un faux témoin, là, c'est terrible. Parce que c'est des gens qui acceptent de volontairement tromper d'autres personnes. Et ici, Paul nous dit que non seulement la prédication est vaine, en plus, ils sont de faux témoins. Ils ont volontairement trompé les personnes qui les écoutent. Et même à la limite, Jésus qui a prêché sur la résurrection, ben c'est un faux témoin aussi. C'est quelque chose. Voyez-vous l'importance de la résurrection? Donc, ça donne quoi maintenant de prêcher la bonne nouvelle? Bien, ça ne donne pas grand-chose parce que dans le fond, tout ce qui resterait à Jésus, c'est que Jésus était un très bon homme. Un homme merveilleux qui a fait des belles choses pour son prochain, mais qu'il a échoué à la croix. Donc, la première grave conséquence relativement à nier la résurrection, c'est que notre prédication, elle est vaine. Mais en plus de ça, Paul va continuer en disant qu'il y en a une autre conséquence qui est terrible. C'est que votre foi est vaine. Paul écrit aux gens de Corinthe en leur disant, « Hey, les lecteurs, non seulement ma prédication est vaine, mais votre foi, vous autres, elle est vaine. » Ce matin, on pourrait dire, « Hey, vous, les auditeurs, ben votre foi aussi, elle est vaine. » Parce que si Christ n'est pas ressuscité, c'est ce qu'il dit, « Votre foi, elle est vaine. » Lorsqu'on met notre foi à quelque part ou en quelqu'un, c'est parce qu'on pense qu'effectivement, l'œuvre accomplie par cette personne-là, elle est satisfaisante. Lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, lorsqu'on prêche l'Évangile, on invite les gens à croire à quoi? À la personne et à l'œuvre de Jésus. Mais l'œuvre au complet, de la crèche à la croix à la résurrection. Ça va de soi. Donc, il ne s'agit pas juste de voir un aspect, il s'agit de penser toujours que quand on met notre foi, on l'a mis du fait que ce qui s'est passé à la croix a eu des répercussions par la suite dans le tombeau, et le tombeau devait être libre par la suite. Jésus devait être ressuscité. Sinon, son sacrifice n'est pas suffisant. Et l'Évangile, c'est de croire à un Christ ressuscité. Mais si Christ n'est pas ressuscité, ben vous vous êtes trompés, les amis. Et votre foi, elle est inutile. Elle ne vous servira à rien. Elle est sans valeur. C'est ça aussi simple que ça. Et puis, pour vous autres, en 2016, peut-être vous dites, « Ouais, c'est quelque chose, là, une foi sans valeur. J'ai mis ma confiance, je me suis planté. » Mais pensez un instant à ce que la Bible nous enseigne aussi par rapport à ce qu'on appelle les héros de la foi. Dans Hébreux 11, vous vous souvenez ceux qui ont lu ça? Des héros de la foi, des gens qui ont été maltraités, des gens qui ont été fouettés, enchaînés, emprisonnés, lapidés, sciés et torturés pour leur foi, parce qu'eux croyaient à la résurrection. Bien, toutes ces personnes-là, même chose, leur foi a été vaine. Et si leur foi a été vaine et votre foi a été vaine, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2016, Jésus ne peut rien faire pour vous. Il ne peut rien faire. Il est mort, c'est tout. Il ne peut rien faire. Donc, quand même, vous iriez pour le prier, faire n'importe quoi, ça ne vous donne absolument rien. Jésus est un bon maître, et ainsi de suite. Voyez-vous, si vous niez la résurrection, tout s'écroule. Donc, non seulement la prédication de Paul, elle est vaine, votre foi est vaine, mais encore, il y a une autre conséquence. Il va dire, ça concerne notre état. Il va dire, vous êtes encore dans vos péchés et perdus. Au verset 17c et 18b. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Bien, ça empire la situation. Non seulement ça dégringole, mais c'est de pire en pire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de désobéissance envers Dieu, lorsqu'on parle de péché, ben il y a quelqu'un quelque part qui doit payer pour ça avec Dieu, c'est clair. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec un état dans lequel on a encore des péchés en nous. C'est impossible. Donc, si quelqu'un doit payer, ça veut donc dire qu'on a besoin d'un sauveur, on a besoin d'un sacrifice, et la Bible nous dit aussi qu'on a besoin d'un substitut. Parce que tout à l'heure, ce matin, des gens ont souligné en voyant le film lorsqu'on voyait Jésus sur la croix. Les marques qu'il avait, bien, une de ces marques-là, c'est peut-être moi, c'est comme si c'est moi qui lui avais fait. Et vous savez, toutes ces souffrances-là que Jésus a eues, bien, c'était parce qu'il voulait être un substitut. Il voulait payer à votre place et à ma place. On aime ça dire que Christ est mort pour nos péchés. Mais comment savoir si sa mort a réellement accompli quelque chose? Bien, la réponse est simple, c'est la résurrection. Mais si Jésus est resté dans la tombe, la conclusion est logique. Pas de résurrection, mais vous êtes encore dans vos péchés. Et quand il dit ça, il parle aux gens qui sont vivants, un peu comme vous, vous êtes ici ce matin. Si Christ n'est pas ressuscité, bien, vous êtes encore dans vos péchés. On est tous comme ça. Et la parole de Dieu est très claire que si on veut se présenter devant Dieu avec nos péchés, tout ce qui nous attend, c'est qu'on est privé de la gloire de Dieu. Et tout ce qui nous attend, c'est une condamnation. C'est triste. Mais Paul va encore plus loin, il va dire que non seulement vous êtes encore dans vos péchés, mais tous ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Toute la gang qu'on a pu nommer avant, tous ceux qui ont consacré leur vie à cause de la foi qu'ils avaient, tous ceux qui sont partis, qui sont allés évangéliser, qui sont allés comme missionnaires, toutes ces personnes-là qui ont mis leur foi, si Christ n'est pas ressuscité, bien, tout, qui sont décédés, ces personnes-là, bien, toutes ces personnes-là qui sont décédées, là, sont perdues. C'est clair par rapport à la parole de Dieu. Tous ces grands hommes-là, nos frères et sœurs aussi dans la foi, lorsqu'ils décèdent, on a de la tristesse, mais en même temps, on est content parce qu'ils appartiennent à Jésus. Mais s'il n'y a pas de résurrection, ils sont perdus eux autres aussi. Et tout ce qui reste, c'est d'être sous la colère de Dieu. Quelqu'un a dit, si Christ n'est pas ressuscité, Satan gagne et Dieu perd. Quelque chose, hein? Mais c'est vrai. C'est exactement ça. Et la résultante de tout ça, Paul va nous dire, bien, écoutez, là, les amis de Corinthe, écoutez, les amis ici de la Madeleine, si Christ n'est pas ressuscité, bien, nous sommes à plaindre. Au verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et littéralement, moi je regarde dans ma Bible, c'est écrit à côté, littéralement, nous sommes les plus pitoyables, les plus misérables de tous les hommes. Pas encourageant ça? Vous êtes les plus pitoyables, je suis le plus misérable de tous les hommes si notre espérance se résume à ce qui se passe sur la terre. Quand on regarde dans l'histoire, quand on regarde sur la planète, combien de personnes ont combattu pour des causes nobles, toutes sortes de causes. Bien, vous savez, dans nos raisons de vivre, vous comme moi, on a toujours une espèce, je dirais, de combat intérieur. Okay? D'un côté, on aimerait ça, nous autres aussi, servir, s'impliquer pour une cause qui est noble, mais d'un autre côté, pourquoi se donner de la misère? On est bien mieux de profiter de la vie. Tu sais, pas plus compliqué que ça. Ça, ce combat-là, si vous êtes comme moi, on a ça. Bien, Paul, ce qu'il vient dire ici, écoutez, là, il dit, si il n'y en a pas de résurrection, vous avez gaspillé votre vie. Si votre espérance, elle est juste dans la vie présente, vous avez, puis que vous avez tout consacré ce que vous pouviez, bien, vous l'avez gaspillé. Ça veut donc dire que depuis 2000 ans, tous les efforts qui ont été mis, toutes ces personnes qui ont été persécutées en raison de leur foi, tous les sacrifices que les chrétiens ont pu faire par amour pour le Christ, bien, ça ne donne rien. Ça veut donc dire qu'on n'a plus de message à prêcher, pas besoin de missionnaires, pas besoin d'être pardonné, on peut fermer la chope. On peut fermer la chope parce que tout ce qu'on a investi, regardez ici, là, tout le travail de bras, la sueur et tout ce qu'il y a eu de fait pour avoir ce bâtiment-là, on n'a même plus de message à prêcher si Christ n'est pas ressuscité. Ce serait aussi bien de fermer ça. Et faire courant. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire à la place? Bien, Paul va répondre un peu plus loin à ce sujet-là. Et pour répondre à ça, qu'est-ce qu'on aurait dû faire à la place? C'est pas compliqué. Regardez pas à l'intérieur ici. regardez à l'extérieur, regardez le monde qui vous entoure. Eux vont vous montrer c'est quoi une vie quand Christ n'est pas ressuscité. Et c'est pour ça qu'au verset 32, il va dire, dans le même chapitre, il va dire, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » C'est clair? Sans espoir de résurrection et d'une joie éternelle avec le Christ, alors quoi? Bien, profitons de la vie de la même manière que le monde qui nous entoure. Pas compliqué. Manger, boire, avoir du plaisir, faire des bonnes petites choses au travers de tout ça, mais penser toujours qu'on a juste une vie à vivre. Donc, si on a juste une vie à vivre, organisons-nous pour qu'elle soit la plus plaisante possible, parce qu'après, t'es fini, il n'y a plus rien. Autrement dit, le seul ciel qu'on pourrait espérer, savez-vous, c'est où? C'est ici-bas sur la terre. Des fois, les gens disent l'enfer. Non, non. Il y en a qui se battent, c'est pas pour l'enfer sur la terre. Il y en a qui se battent, c'est pour avoir le ciel sur la terre présentement, puis penser qu'après ça, quand je mourrai, bien, j'aurai tout fait ce que j'ai voulu. J'aurai participé à tout ce que j'ai voulu. J'aurai acheté tout ce que j'aurais voulu. J'aurai vu la planète entière en voyage. Mais je m'en irai dans le trou, mais c'est comme ça. Mais voyez-vous, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et ça, pensez-vous qu'à quelque part, ça peut influencer, un peu comme Corinthe était peut-être un petit peu influencée par Athènes, ça se pourrait-tu que nous autres aussi, vous et moi, on soit un petit peu influencés par ça? Ce monsieur-là ici s'appelle Hérodote. On dit de lui que c'est le père de l'histoire. Ce monsieur-là, c'est un historien grec qui raconte à un moment donné qu'il y avait chez les Égyptiens une coutume assez intéressante. Il dit que lorsque les Égyptiens riches se rencontraient, ils mangeaient, ils buvaient, il y avait un beau banquet et tout ça. Et vers la fin, il y avait un serviteur qui se promenait au travers des convives et il se promenait avec un cercueil. Un cercueil dans lequel il y avait eu de mis une sculpture en bois, mais avec du ketchup, avec ou encore d'une position un peu assez bizarre. Là, mettons-le, du genre, il n'est pas beau puis il a l'air d'être mort. C'est une sculpture en bois, mais il a l'air d'être mort. Et là, le serviteur se promenait comme ça, puis allait voir les convives en leur disant ceci. « Regardez par ici, et buvez et réjouissez-vous, car quand vous mourrez, c'est à ça que vous ressemblerez. » Ouais, mangeons, hein? Amusons-nous. Tente pas de ressembler à ça, moi, là, là. Vous savez, on peut en rire, mais si je regarde dans ma propre vie, à moi, est-ce que cette pensée-là ne rentre pas parfois ou trop souvent dans mon propre cœur, que peut-être je regarde juste sur un volet terrestre et non pas éternel? Donc, c'est des conséquences qui sont terribles. Paul va dire, votre prédication est vaine, notre prédication est vaine, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés et perdus. Mais, heureusement qu'il y a les « mais » dans la parole de Dieu. Mais Paul va préciser, mais maintenant, wow, là c'est un changement. Il dit, attendez un peu, là je vous en ai donné là, du négatif, là. À cette heure, revenons donc à la réalité quelque part. Réfléchissons sur la réalité et l'importance de la réalité. Bien maintenant, Christ est ressuscité des morts. La résurrection de Jésus, c'est un fait qui a été attesté par de nombreux témoins, et tout ça s'est fait en conformité avec l'ensemble des écrits qu'on retrouvait alors, aussi bien dans, maintenant on pourrait dire dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Mais maintenant Christ est ressuscité, ça veut donc dire que le tombeau, oui, il est vide. Et s'il est vide, c'est parce que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus. La Bible nous rappelle en Romains 4, 25 que Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. On a envie de dire comme Trevor dit des fois, quoi? Alléluia! Hey! Il est ressuscité, mais pourquoi? Pour votre justification, puis la mienne aussi. Oubliez-moi pas là-dedans. La mienne aussi. Dieu me déclare juste à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et quand je parle de la croix, tout à l'heure, ce qu'on voyait, oui, c'était touchant, oui, c'était terrible, l'aspect physique, mais pendant les heures qu'il était sur la croix, lorsqu'il portait vos péchés, mes péchés, les blessures, les pires, c'était pas les blessures physiques. c'était tout l'aspect émotionnel, c'était toute sa relation qu'il avait avec son père, qui, ça, il a été séparé de ça pendant un temps. Parce que pendant ce temps-là, il portait vos péchés, il portait mes péchés, et Dieu devait le juger en conséquence, puis à cause de ça, il devait mourir, parce qu'il vous aimait puis qu'il m'aimait. C'est ça qu'il a fait. Jésus a été livré pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Mais en plus, le verset nous dit en plus qu'il a été les prémices, que c'est beau. Savez-vous c'est quoi les prémices? À l'époque, c'est lorsque les Israélites faisaient la culture, faisaient la cueillette, je dirais, là, un peu des fruits qui étaient mûrs, principalement comme de l'orge, entre autres, là. Bien, ils amenaient ça en termes d'offrandes. Mais ça, c'était un témoignage. C'était un témoignage de dire, garde ma récolte, j'ai eu ça, merci Seigneur. Mais c'était pas ça, sa récolte. C'était le début. La fin s'en venait. C'est comme si quelqu'un rentrait aujourd'hui avec un ballot de foin. Et c'est, mais merci Seigneur pour le ballot de foin. Oui, mais attends ce qui s'en vient dans la grange. Il y en a d'autres ballots de foin. Vous comprenez? C'est ça les prémices. Bien, les prémices, dans ce cas-ci, dans le verset qu'on vient de lire, Jésus est ressuscité. Et c'est lui qui agit ainsi comme les prémices des autres. Jésus, sa résurrection garantit votre résurrection, si vous lui appartenez, bien entendu, et ma résurrection. Parce que c'est la validation de l'œuvre du salut par Dieu. C'était le plan de Dieu. Et conséquemment, je vous dirais même que toutes les affirmations que j'ai faites tout à l'heure, les conséquences, on pourrait revirer ça de bord. Puis dire de manière beaucoup plus positive, la prédication de l'Évangile, elle n'est pas vaine, elle est indispensable. Notre foi, elle n'est pas vaine, notre foi, elle est fondée. Puis nos péchés sont pardonnés. Puis nous autres, les chrétiens, savez-vous quoi? On ne fait pas pitié. On est enviable. Réalisez-vous ça qu'on devrait être envié quand on a une espérance comme nous on a, bon sang, ça devrait transparaître à quelque part. Ça devrait attirer les gens justement à dire, waouh, lui il y a quelque chose que moi j'ai pas. Ben si on a quelque chose, c'est parce qu'on croit à la résurrection. Vous savez, lorsqu'on regarde les cimetières, puis le tombeau de Jésus. Que ce soit Bouddha, que ce soit Mahomet, tous les grands fondateurs de religion, que ces personnes-là ne soient pas sorties de la tombe. Ce n'était même pas nécessaire. Ça n'a jamais été dit qu'ils devaient sortir de la tombe. Okay? Mais Jésus, par exemple, si lui n'était pas sorti du tombeau, ça donnait tout un méchant problème. Parce que Jésus, il fallait qu'il ressuscite, pardon, comme il l'avait promis, puis comme les Écrits le disaient. Les autres, ce n'est pas grave, puis personne ne s'en fait de toute façon. Ils n'ont jamais dit qu'il fallait qu'il ressuscite. Mais Jésus, lui, c'était nécessaire. Quelqu'un a dit, de façon un peu imagée, que Pâques est le grand Amen de Dieu au Vendredi Saint. Voyez-vous, la résurrection de Jésus, c'est comme si Dieu dit, Amen, qu'en soit ainsi, il est sorti et il est vainqueur. Mais qu'est-ce que ça fait pour vous et pour moi, ça, de savoir cela? Ça fait-tu un changement dans votre vie? Bien, si vous êtes chrétien, si vous êtes une personne qui avait témoigné de votre engagement avec Jésus, qui avait confessé Jésus en passant par les eaux du baptême, qui vous êtes engagé, qui avait démontré d'une manière même claire que vous vous êtes associé à lui dans sa mort, en étant plongé dans l'eau, et dans quoi? Dans sa résurrection. Donc là, ça devrait amener des changements. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Christ est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ceux qui vivent, pas vivent seulement physiquement, là, spirituellement, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, vous êtes vivants, non seulement physiquement, mais spirituellement maintenant. Bien, vous avez une responsabilité, j'ai une responsabilité, c'est de ne plus vivre pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Voyez-vous, avec la vision de la résurrection vient l'acceptation du service, du sacrifice aussi, par amour pour Jésus et pour notre prochain. Mais ça, là, tout ce qui peut nous motiver à aller de l'avant dans cet esprit-là, c'est l'assurance et l'espérance de la résurrection. c'est de savoir qu'un jour, il va y en avoir de la joie, pas mal plus qu'on peut avoir ici. Il n'y a pas un parquet qui vient ici bas sur la terre qui va être comme ce qu'on va avoir au banquet des noces de l'agneau. Savez-vous ça? Il n'y a rien qui va arriver avec ça. Donc ça, cette espérance-là de la résurrection, ça devrait nous amener à servir vraiment. Donc aller vers ceux autour de nous autres qui ne l'ont pas cette espérance-là, mais aussi de servir au sein même de son assemblée, son église. Ça fait plusieurs semaines qu'on amène des sujets. Puis gloire à Dieu, des fois, on a eu des résultats. Je regarde l'autre jour pour tout le service qu'on avait besoin pour aider dans le ménage et tout ça. On a eu quelqu'un qui est venu nous exhorter et pif, paf, 22 noms qui ont sorti. Bien, il y a de la place encore pour 20 autres en passant, là. Il faut en rajouter, là. Mais voyez-vous, le service chrétien. Si on est un chrétien et que tout notre objectif, c'est juste de venir de temps en temps écouter une prédication, ou comme quand j'étais enfant, on disait les gens allaient faire leur Pâques. Savez-vous c'est quoi? Ils allaient se confesser une fois par année, puis ils pouvaient prendre la communion, puis s'en allaient, puis étaient carrés pour le reste de l'année. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens qui venons faire nos Pâques, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit des chrétiens qui avons à cœur de servir. Puis de servir, il y a tellement de possibilités. Et peut-être que vous êtes quelqu'un ici ce matin qui, lui, est resté, je dirais, accroché seulement à la croix. Que l'aspect de la résurrection, pour vous, ça n'a pas été vraiment, ça ne vous a pas saisi. Vous êtes resté vraiment à la croix. Bien, moi, je dois vous dire quelque chose. Il faut être honnête. Parce que Jésus, il a parlé aussi de la résurrection des justes, mais aussi de la résurrection des injustes. Et vous êtes dans un ou l'autre. Soit vous êtes déclaré juste à cause que vous avez mis votre foi dans le sacrifice seul de Jésus, que vous croyez qu'il est ressuscité, ou si vous ne l'avez pas fait, vous êtes dans la résurrection des injustes, éloigné de Dieu pour l'éternité. C'est ce que la Bible nous dit. Mais il nous précise bien, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Sauvé. C'est ça que vous avez à faire. La décision que vous avez à prendre, c'est d'accepter ce que Dieu dit. Pas ce que les philosophies athéniennes, Cap de la Madeleine, Trois-Rivières, vont dire. Non, c'est pas ça. C'est de croire ce que Dieu dit. Parce que Dieu vous aime et Dieu vous veut avec lui pour l'éternité. Mais c'est votre décision. Vous devez vraiment accepter ça. Lorsque Paul était à Athènes, je vous ai dit tout à l'heure, on voit ça dans le livre des Actes, au chapitre 17, puis il a commencé à parler de la résurrection. Il y a des gens qui se sont moqués de lui. D'autres ont dit, nous t'entendrons une autre fois là-dessus. Puis d'autres, par contre, ont cru. Et ça, ce matin, dans votre décision, vous avez exactement la même situation. Soit que vous vous moquez par rapport au plan de Dieu pour votre salut, soit vous reportez en disant, on écoutera ça une autre fois, mais vous n'avez aucun contrôle de ce qui va se passer aujourd'hui dans votre vie. Ou soit vous l'acceptez. Bien, notre prière à nous, c'est qu'aujourd'hui, si Pâques doit avoir une signification plus particulière, c'est vraiment que vous saisissiez l'importance de la résurrection et que vous compreniez que c'était dans le plan de Dieu, mais qu'avant tout, Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il était là par amour pour vous. Et maintenant, Jésus est vivant, et parce qu'il est vivant, on peut s'adresser à lui, et c'est ce qu'on va faire en terminant. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père, on veut te remercier vraiment de ce plan merveilleux que tu as accompli. Il n'y avait rien qui pouvait être aussi merveilleux que ça. Oui, Seigneur, nos péchés, nos offenses, nos mensonges, tout nous séparait de toi. Mais par amour pour nous, Seigneur, tu as donné ce que tu avais de plus précieux, ton propre Fils. Et Seigneur, sur la croix, on veut se rappeler que ce sont nos péchés qu'il portait. Et c'est notre condamnation qu'il prenait. Mais béni sois-tu, notre Dieu, de ce que tu as agréé son sacrifice et que tu l'as ressuscité et qu'il est vivant et que maintenant on peut s'approcher de lui continuellement. Il peut nous aider dans nos difficultés. Il est là toujours présent et un jour, Seigneur, on va être avec lui pour l'éternité. Donc, Seigneur, vraiment, pendant cette période plus particulière, rappelle ces choses à nos cœurs et que ça puisse vraiment nous réchauffer tous ensemble et que tout cela soit toujours pour ta gloire. Amen.
Amen. Christ est ressuscité. Et on dira, il est vivant. Christ est ressuscité.
Il est vivant.
Parfait. S'il est vivant, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie à toi? Alors, maintenant, c'est la période des fêtes. Alors, on vous souhaite une joyeuse fête de Pâques et en famille, annoncez le Christ ressuscité qui est vivant pour vous et pour moi. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Merci, Benoît. Et nous remercions encore de nouveau le groupe Ecclesia pour tout leur travail parmi nous. Que Dieu vous bénisse encore. Merci et bon dimanche.